Radio Campus, il est 15h.
L'association La Récréation vous donne rendez-vous les 14 et 15 juin 2025 à Fléchin pour le festival d'art de rue Mais où va-t-on ? Théâtre à ciel ouvert, en forêt, cirque aérien, marionnettes urban public, danse percutante, concerts déjantés, entresorts participatifs. Venez découvrir une programmation éclectique, joyeuse, engagée et poétique pour rêver, rire et résister ensemble. En complicité avec les habitants du territoire. Infos et programmes sur l-arrêt-création.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur cette question. Nos premières fois sont-elles déterminantes ? Récemment, une amie m'a fait part du délice qu'elle a ressenti en goûtant, pour la première fois, un chou farci. « Je ne pensais pas que la feuille de chou pouvait être aussi délicieuse », m'a-t-elle confié. Cette première bouchée m'a fait penser à toutes ces fois où j'ai pu expérimenter quelque chose en doutant de l'opportunité de mon geste. Le doute d'abord, l'hésitation, la peur parfois, et puis la conséquence qui mène à la félicité ou au regret, selon les cas et l'état d'esprit. J'aime particulièrement les premiers regards. On se jauge sans se juger. On se trouve à l'orée du désir. Une déferlante de sensations nous emporte. La première fois, c'est la promesse d'un amoncellement de possibles, de désillusions, mais toujours la possibilité de sublimer l'ordinaire et de mettre à jour des pépites qui alimenteront la machine à créer. J'ai coutume de dire qu'à défaut d'un beau moment, cela fera une histoire drôle à raconter. Les premières fois peuvent émerger n'importe où et à tout moment, alors prenez garde. Il suffit de sortir à une autre station de métro, de changer de coiffure ou de porter un manteau orange pour que soudain, votre quotidien en soit changé pour quelques minutes, voire à jamais. En création, les premières fois s'amoncellent. Les tentatives, les expérimentations, celles et ceux qui passent leur temps à se réinventer ont fait de leurs imaginaires une source inépuisable de tentatives et de premiers pas. Est-ce que tout se joue au premier essai, à la première fois ? Quel impact auront ces baptêmes du feu sur le reste de leur carrière ? De leurs projets. Malgré les écueils, ils se remettent inlassablement à l'ouvrage, dans la continuité ou dans la rupture, sans certitude de succès, mais dans l'espérance d'approcher au plus près de leur vérité. Alors, saluons-les, nos premières fois, chérissons-les. Qu'elles soient amères ou trop sucrées, elles racontent toutes quelque chose de notre histoire et de notre innocence qui, malgré les aléas, reste toujours à portée de cœur. Et du cœur, elle en a. Mon invité de ce jour. C'est la période du Covid qui lui a permis d'embrasser son ennui et de faire de sa voix, de ses mots, le vecteur d'émotion que ses titres révèlent. Il y a quelque chose de lointain et de proche dans sa musique, comme une comptine qui nous aurait bercés durant notre enfance et qui soudainement ferait irruption dans nos vies de grandes personnes sérieuses. Seule à la guitare, elle conquiert la scène par la profondeur de son engagement. Sa voix raconte toute la fragilité des liens qui nous unissent et tout ce qu'il faut de cœur et de volonté pour expérimenter encore et encore tout ce que la vie a à nous offrir. C'est une voyageuse, mon invitée, et durant ses pérégrinations, sa guitare, comme un totem, comme un témoin de ses aventures à la conquête du monde et d'elle-même, ne l'a jamais quittée. Pas étonnant alors de retrouver quelque chose de solaire et de iodé dans ses titres. Une envie de partir ou de repartir à la conquête de nos rêves. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir l'artiste, compositrice et interprète Moma L, Maëlle à la ville. Bonjour Maëlle.
Bonjour.
Et bienvenue dans le Skylab.
Merci.
Première question, est-ce que tu te souviens de ta première fois la plus récente ?
Ah, bonne question. La première fois que j'ai conduit à Paris,
Ok. Les Franciliens qui écoutent savent. Ceux qui savent, savent.
Moi, je viens de Boulogne et je suis originaire de Bretagne, dans un petit village. Donc, c'est vrai que ça a son importance, ce genre de détails. Sinon, musicalement, il y en a eu plein. Parce que autant ça peut être la première fois que je suis montée sur scène, la première fois que j'ai fait une résidence, la première fois que j'ai raté aussi. Oui. Et ça, il y en a eu plein d'autres depuis. Il y aurait aussi la première fois que j'ai fait un clip, la première fois que j'ai appelé des professionnels. Tout ça, ça m'a permis de construire mon parcours petit à petit. Donc, c'est difficile d'en choisir un parce qu'ils ont tous été extrêmement importants et extrêmement formateurs.
C'est intéressant parce que, à t'entendre, on réalise que tu cumules en ce moment les premières fois.
Alors, ça fait à peu près, je dirais, 2 ans que ça arrive très, très régulièrement ces premières fois et que j'ai l'impression que tous les mois, ou quand il y a un mois chargé, plusieurs fois par mois en tout cas, que je vais tenter quelque chose de nouveau, avec succès ou pas. Hein. Mais en tout cas, je vais me lancer dans une aventure nouvelle assez régulièrement depuis 2 ans et j'adore. Vraiment, bon, ça a son lot de, ça a son lot de petites larmes aussi, hein, on va dire. Mais j'ai l'impression que sur toutes ces premières fois, on va dire qu'une grosse partie, c'est du positif et c'est une avancée vers attendre vers ce que j'ai envie de faire vraiment.
Mmh. Et comment est-ce que tu te prépares face à ces premières fois? Est-ce qu'elles, certaines, j'imagine, doivent te tomber littéralement dessus, mais pour celles que tu peux anticiper, est-ce que tu les prépares? Comment ça se passe? Comment est-ce que tu anticipes ces premières fois?
Beaucoup de stress. Non, j'ai tendance à être assez organisée. En tout cas, dans la musique, ce qui est assez rigolo, parce que c'est pas forcément le cas partout dans ma vie. Mais en tout cas, pour ce qui tient à la musique, c'est peut-être ma façon à moi de gérer ça, en fait. De gérer cette nouveauté assez permanente, de gérer aussi le fait qu'on se mette à nu, parce que quand on compose, c'est vraiment nous qu'on met sur un plateau, hein, quand on est devant des gens. C'est peut-être ma façon à moi de m'approprier ça et de le vivre du mieux possible, en tout cas. Donc, c'est beaucoup de travail. Moi, je suis un peu une acharnée. Donc, j'ai tendance à beaucoup préparer. Quand j'ai un concert, je répète beaucoup en amont. Quand j'ai un gros projet, comme la réalisation d'un clip ou quoi que ce soit, ben, ça va être beaucoup de travail aussi, longtemps en amont, pour arriver le plus serein possible. Parce que justement, ces premières fois, ces premiers concerts où on se rend compte de la dose de stress que c'est, plus on peut gérer ce qui est gérable en amont, mieux c'est. Parce qu'on arrive et on gère juste ses émotions, on gère sa musique qu'on connaît le mieux possible, qu'on essaye de connaître. Mmh. Et je pense que ça passe là-dedans. Mmh.
Donc l'aléa, ce serait l'émotion. Mmh. Et sinon, être un bourreau de travail, est-ce que c'est un peu la clé en création? Beaucoup d'invités me l'ont rappelé, que finalement, c'était d'abord du travail.
J'ai l'impression, oui. C'est en tout cas pour moi, hein, je parle vraiment pour moi, mais c'est un petit peu comme... au début, je voyais ça un petit peu comme une... quand on est au lycée, qu'on nous demande de faire une rédaction ou un texte sur tel ou tel sujet, où on doit s'asseoir, on doit réfléchir, on doit se prendre quelques heures pour le faire. Et au début, pour moi, ça a été vraiment ça. Donc c'est vraiment se mettre dans cette optique de c'est un processus de travail. C'est pas forcément comme on voit dans les films. En tout cas, il y en a sûrement pour qui ça marche comme ça, et tant mieux pour eux, et c'est génial, et c'est incroyable. Mais moi, c'est vraiment... ça s'apparente vraiment à s'asseoir, réfléchir. C'est un processus de création, mais un processus de travail avant tout. Mmh. Et ça va peut-être pas marcher du premier coup, donc on va refaire une session, on va se réasseoir, on va relire ce qu'on a fait, et voilà. Donc moi, c'est un peu ma façon de voir les choses. Ça me tombe pas... je suis pas dans la rue en train de marcher en me disant « ça y est, j'ai trois chansons qui sont dans ma tête ». J'écris tout comme ça d'un seul jet, c'est bon, j'ai une chanson. Alors, bizarrement, plus je compose, plus ça a tendance à arriver. Au début, il fallait vraiment, vraiment que je m'assoie, que je réfléchisse. Et maintenant, parfois, ça peut arriver sur une matinée où c'était pas prévu que je fasse de la musique ou que je fasse ça particulièrement. Et là, il y a quelque chose qui va sortir. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est presque un entraînement.
Oui, c'est une gymnastique. Oui, c'est vrai qu'on a toujours cet archétype encore une fois, de la créative, du créatif sur lequel l'inspiration tombe comme de la pluie.
Oui, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on voit dans les films, dans les médias, tout ça. Ces artistes torturés.
Absolument.
Mais il y en a, je suis sûre qu'il y en a, et c'est incroyable. Mais...
Ouais. Et on les admire pour ça. Oui. Et en même temps, on admire aussi le fait d'être un bourreau de travail en création, puisqu'on on sait que pour le commun des mortels, ça reste avant tout un loisir, la création, alors qu'en fait, non, c'est un vrai processus, comme tu nous l'as expliqué, et c'est une vraie démarche professionnelle. Quel conseil tu aurais aimé recevoir avant d'entrer en création? Est-ce que tu aurais aimé avoir un petit tips qui t'aurait peut-être facilité la tâche à un moment donné?
Je dirais pas quand je m'y suis mise, parce que je m'y suis mise vraiment par surprise, presque. Donc, j'avais pas de pression. Ça aurait pu être très très nul, c'était pas bien grave. Bon là, ça m'a plu, ce que j'ai fait, ça m'a plu. Mais c'était pas l'objet quand j'ai vraiment commencé. C'était censé être juste pour moi, pendant le Covid, entre quatre murs, et c'est tout. Donc pas de pression, mais je dirais que j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'exemples de gens qui créent et qui disent que on peut le faire à tout âge. Bizarrement, je m'étais mis une limite, sûrement par rapport à ce qu'on voit dans les médias, etc., de ces artistes interplanétaires, on va dire, hein, qu'on connaît tous, qui ont eu l'air de créer dès qu'ils étaient tout petits, en fait.
Oui,
d'avoir commencé très très tôt, et d'avoir toujours fait ça, d'avoir rêvé que de ça. C'était pas mon cas. Et donc, je pense que ça m'a mis des freins assez longtemps, en me disant, bah, si j'ai pas commencé avant, c'est que c'est pas pour moi. Et en fait, non.
Et c'est extrêmement pertinent ce que tu dis, parce que c'est vraiment un questionnement, c'est pertinent en tout cas pour moi, parce que c'est un questionnement que j'ai régulièrement et qui commence vraiment à s'étioler maintenant. Je réalise que ce n'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de désir avant tout, et tu en es la preuve également. Du coup, j'ai perdu la question que je voulais te poser. J'étais tellement enthousiaste. J'étais super enthousiaste. Oui, oui, c'est pas une question d'âge. C'est toujours l'idée qu'on ne peut pas se lancer en création si on n'a pas quelque chose d'extraordinaire à dire.
Alors ça, c'est une deuxième chose. Ouais, complètement.
Ouais.
Là, je partage tout à fait. Donc cette première chose, on a l'impression que c'est inné pour ces gens-là et que c'est ancré en eux. Et puis cette deuxième, où ils ont vécu des choses très fortes qu'ils ont envie de raconter. Et puis finalement, quand on regarde notre vie, qui est très bien. Alors moi, j'ai rien à redire sur ma vie. Au contraire, je suis très, très fière de mon parcours. Mais voilà, est-ce que j'ai ces moments forts? Est-ce que j'ai le droit de parler de ma vie un petit peu lambda, quoi? Est-ce que je peux parler de ça? Est-ce que ça va intéresser? Est-ce que j'ai le droit?
Exactement. Et justement, tu nous prouves que tu t'es autorisée à oui. ça. Et d'ailleurs, on va faire une première pause musicale en écoutant un de tes titres, Maëlle. Cela s'intitule « Remember Me ». Et puis, on en échange juste après. À tout de suite dans le Skylab.
We are on the boat, my glass is empty. I'm laughing a lot, I think I'm kinda tipsy. Tonight I don't care, was I with somebody? They used to be someone, but tonight's McFlurry. I choose my cream, my cake and my candy. Will you be mad, will you be bothered, really? I'm sure you won't, you don't care about me lately. One more drink, my memory goes blurry. One coffee, a bottle of champagne, one midnight kiss, a full night in bed, can you even remember me? One teardrop, a fountain of diamonds flooding my cheek. You can notice them, you're too scared to look at me. I have someone to get a tattoo on me. It's serious, it's never gonna interest me. I'm laughing, you say, why is it so funny? Because I do too. We don't care, that's what's scary. You got your girl and here we are playing like crazy. What does it say about these terrible things? Maybe you don't feel bad, I think I am just a bit. Forget tomorrow, I've never felt so free. One coffee, a bottle of champagne, one midnight kiss, a full night in bed, can you even remember me? One teardrop, a fountain of diamond flooding my cheek. Too scared to look at me. Nobody knew and I didn't know. I was waiting on you. I was waiting on you. to be free. It's the morning but her day, I'm crashing, I gotta leave this boat. I can't meet nobody, everybody's sleeping, I'm quietly escaping. What did I do? Shall I regret? Do I tell him? 25 minutes home, barefoot walking, I should feel awful but instead I'm smiling. The song over and last night got me thinking, I know what I got to do, it's over with you. One coffee, a bottle of champagne, one midnight kiss, a full night in bed, can you even remember me? One teardrop, a fountain of diamonds flooding my cheek, you can notice them, you're too scared to look at me. Nobody knew and I didn't know, I was waiting on you, I was waiting on you to be free. Nobody knew and I didn't know, I was waiting on you to let it go. To be free.
De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de Moma L, autrice, compositrice et interprète qui se révèle dans une pop folk ciselée comme une trame de dentelle. Peux-tu nous raconter, Maëlle, quelles sont les inspirations autour de ce titre que nous venons d'écouter, Remember Me?
Je pense qu'il y a... Il y a vraiment deux parties. Il y a la partie un petit peu récente. Alors moi, je suis fan d'Ed Sheeran, par exemple. Je suis beaucoup aussi ce que fait Aurora. Et aussi une artiste qui nous vient du nord de l'Europe, encore une fois. M-O avec un O barré. Donc ça, ça a été des grosses inspirations pour moi. Mais en même temps, mon père fait de la guitare aussi. Et depuis toute petite, j'entends de la folk américaine des années 70, 70-80. Et ça aussi, ça a bien bercé ma création, je dirais. Donc, il y a un petit peu ces deux-là qui se mêlent. Et il y a une troisième constante qui arrive dans cette image. Ça va être le côté culturel breton. Parce que donc, je suis originaire de Bretagne et j'ai une famille qui s'est beaucoup ancrée dans la culture bretonne, dans la musique bretonne, voilà, en particulier. Et donc j'ai eu la chance d'apprendre en fait un instrument traditionnel breton. Ma sœur en jouait aussi.
Pardon,
il s'appelle donc c'est de la bombarde.
D'accord.
Ça ressemble à un petit hautbois. Okay. Donc c'est aussi avec une anche double. Donc c'est un instrument qui est très très fort d'ailleurs et qui se joue souvent en duo avec une cornemuse par exemple.
D'accord. Voilà. Ok.
Et ce qui est vraiment top avec cet instrument là, c'est que on le joue pas tout seul. Donc c'est soit avec une cornemuse, mais ça peut être aussi dans un bagad. C'est le nom d'un groupe de musique breton où on va trouver bombarde, cornemuse, caisse claire et
d'accord.
percussion.
Okay.
Et c'est des groupes de 30, 40 personnes qui vont faire de la musique ensemble, de la musique bretonne. Alors ça paraît très folklorique, ça l'est, mais ça m'a permis de vivre des choses extra.
Oui.
Et avec ma sœur, avec mon père qui en faisait aussi, j'ai mon petit frère qui s'y est mis aussi pendant un moment.
D'accord.
Donc c'était quelque chose de familial et en même temps qui fait voyager.
Oui.
Donc
oui.
C'est chouette.
Oui, et c'est intéressant parce que tu as débuté, si je puis dire, entourée des tiens, et tu t'es dirigée ensuite vers un projet solo. Qu'est-ce que tu trouves dans le projet solo que tu ne retrouvais pas dans le projet de groupe?
Oh, alors là, on est sur un timing vraiment différent, parce que ça, c'était dans mes années lycée.
Oui,
et
d'accord.
Après, moi, je suis partie loin.
Oui.
Et longtemps. Donc, rupture, on va dire, et on passe à autre chose.
Oui.
Et de toute façon, à côté de ça, j'ai toujours fait de la guitare. Malgré tout, ça a été la constante. Et en revenant de tous mes voyages, c'est là où, quand je me suis posée dans le nord de la France. Et j'ai commencé à vouloir en faire plus et à vouloir m'y mettre plus sérieusement.
Ouais.
Et comme j'ai commencé pendant le Covid, finalement, on était un peu coincé chez soi, donc tout seul. Et du coup, j'ai imaginé ma musique toute seule dans ma chambre, elle sonnait comme ça pour moi. Et puis, mine de rien, mon premier concert a été en toute sortie de Covid. Et donc, il y a eu ces quelques mois avant où je me suis dit, OK, comment je joue cette musique que j'ai fait sur mon ordinateur chez moi, toute seule, pour ce concert, parce que j'ai, de toute façon, je ne peux pas répéter avec des gens, on est encore un peu coincé. Je n'ai pas d'autre solution que de me débrouiller toute seule. Mmh. Au début, c'était effrayant, vraiment. Je me demandais vraiment si j'allais réussir à le faire, parce que je ne l'avais jamais fait avant. J'avais toujours joué avec des gens au conservatoire, etc., dans des groupes d'ateliers. Vraiment, c'était une première fois. Et je l'ai pris à bras le corps, et finalement, j'y trouve maintenant un gros plaisir, en fait.
C'est intéressant que de cette économie de moyens et de cette contrainte est émergé ton projet. Comment est-ce que tu procèdes quand tu écris, quand tu composes? Est-ce que tu pars de quelque chose de très touffu et ensuite tu vas vers les purs, ou est-ce qu'au contraire tu rajoutes des petites touches à chaque fois comme ça? Comment c'est dans
Moi, je rajoute. Je rajoute. En fait, je travaille avec un looper. Donc, c'est un outil qui me permet de créer des boucles, et je peux le faire en live, et c'est comme ça que je fonctionne, du coup, parce que moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les harmonies vocales. Mmh. Et donc, comment faire quand on est tout seul pour avoir des harmonies vocales? C'est pas possible. Donc, du coup, j'ai trouvé cet instrument, hein, parce que je pense que ça, je peux l'appeler comme ça, il a une grosse place dans mon set en live, et qui va me permettre justement de faire ces harmonies toute seule en live. Alors, je ne dis pas qu'un jour, si je peux avoir une chorale avec moi, ce serait un plaisir décuplé. Oui. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la solution que j'ai trouvée qui me va bien. Et quand je compose, du coup, je pars bien souvent d'un guitare-voix ou piano-voix. Et je rajoute. Et ça, j'adore faire ça. Mmh. C'est quand, on va dire que quand les fondations sont posées d'une composition, là, c'est vraiment le moment que je préfère, où je m'assois, j'ai mon micro. Et puis, je peux rajouter 10, 15, 20, 30, 40, 50 harmonies différentes. Et ça, c'est mon petit plaisir.
Ça colle avec ce que tu nous disais en début d'émission. Vraiment avoir une structure, un cadre clair et suffisamment construit pour te permettre ensuite d'imaginer, d'inventer des paysages autour de ta musique. Chanter en anglais, c'était une évidence pour toi?
Oui. Beaucoup des histoires que je raconte dans mes textes me sont arrivées dans cette période où je suis beaucoup partie. Alors, je suis pas partie... En tout, je suis partie 3 ans. Je suis pas partie 3 ans d'affilée. Mais mine de rien, je mets ça dans la même temporalité. Et donc, il y a déjà cette optique-là, que ces histoires-là, elles appartiennent à ce voyage, ce grand voyage de plusieurs années, on va dire. Et la deuxième chose, c'est que quand j'ai appris l'anglais, donc ça, c'était quand j'avais 18 ans, je suis partie un an pour apprendre l'anglais, et j'étais toute seule dans une famille d'accueil aux États-Unis. Et au début, c'était très difficile, mais il a fallu que je trouve assez vite des moyens de progresser, parce que j'en pouvais plus ne pas me faire comprendre. Et un de mes moyens, c'était de toujours m'imaginer mes phrases avant de les dire. Donc ça, c'était une chose. Et aussi d'imaginer des histoires en anglais, comment je les dirais en anglais dans ma tête. Et en fait, depuis ce jour-là, ça ne m'a plus jamais quittée. Mmh. Donc en fait, même quand je me raconte des histoires dans ma tête, elles sont en anglais.
C'est génial.
Ouais, donc,
super méthode. Super voilà. Méthode. C'est intéressant. Encore une fois, cette capacité que tu as de te créer un cadre en toutes circonstances, même quand tu es très loin de tes fondations et de ton environnement familier. Est-ce qu'on peut dire que ta musique, elle est empreinte de ces territoires que tu as traversés, de ces cultures dont tu nous as parlé, folkloriques, bretonnes notamment?
Je pense que ça peut se retrouver. Pour quelqu'un qui connaît ces informations-là et qui écoute un live, je pense qu'il peut repérer par-ci, par-là, des petites touches. C'est distillé, mais c'est là. Enfin, moi, en tout cas, je sais quelles sont là.
Ouais.
Voilà.
Est-ce que tu te souviens de ta première chanson, celle dont tu t'es dit, tiens, celle-là, elle est pas mal?
Bah, c'est la toute première que j'ai écrite.
Ouais.
Vraiment, donc c'était, toujours, j'arrête pas de revenir au confinement, mais c'est tellement le point de...
Ouais.
C'est vraiment là où tout s'est passé, donc voilà. Cette première chanson, elle n'est pas née comme ça. C'est parce que j'ai commencé à faire de la cover sur mon ordi. En me disant, ok, j'ai rien à faire, je m'ennuie. Et moi, je suis un petit peu hyperactive. J'ai besoin de faire beaucoup de choses tout le temps. Et du coup, je m'étais fixé des objectifs en me disant, tous les deux jours, tu fais une nouvelle cover, etc.
Énorme.
Et
c'est pas un petit objectif, ça, c'est énorme, ouais.
Mais ouais. Ça a tenu trois jours, hein, au
ouais,
final.
Mais quand même.
Mais donc, j'ai dû faire trois covers à tout casser. Et la troisième, je dis, ah, mais là, j'ai peut-être pas envie de mettre ces paroles-là dessus. Et puis, cet accord-là, j'aimerais bien le changer. Je vais essayer d'en mettre un autre. Puis finalement, je vais rechanger le premier, je vais rechanger le troisième. Je vais mettre cela à la place. Et puis, attends, et si j'essayais, je mets, allez, j'essaye deux phrases à moi. Mmh. Et voilà. Et c'est comme ça que
ça
a commencé.
C'est génial. Du coup, qu'est-ce que c'est une bonne chanson pour toi ? Quels sont les éléments qui te font dire ça, c'est bien ?
Je pense que c'est quand je la chante pour de vrai, on va dire quand je suis quand j'ai décidé que j'y mettais tout mon cœur, qu'elle m'émeut aussi, moi, parce qu'elle raconte et par la mélodie que j'ai trouvée sur sur ces textes-là. Mmh. Et je pense que je pense à moi-même. Donc, si elle me plaît, c'est que c'est une bonne chanson pour moi. Encore une fois, tout est relatif. Hein.
Bien sûr. Mais on te fait confiance, nous.
Mais voilà, je ne vais pas voir plus loin. Si ça me plaît, c'est tout ce qu'il me faut.
Génial. Justement, on va faire une nouvelle pause musicale en écoutant tout d'abord In Blood Ink, un autre de tes singles. Puis, on va écouter un titre que tu as souhaité nous faire découvrir. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Je dirais, allez, God is a Woman ? D'Ariana Grande, ça te va ?
C'est parti.
Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette chanson ? Pourquoi est-ce que tu as souhaité nous la faire écouter ?
En fait, avant chaque concert, j'ai un rituel. Et c'est de passer les trois mêmes chansons en boucle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et celle-ci en fait partie. Elle fait partie de ces trois chansons. God is a Woman, voilà, Dieu est une femme. C'est une chanteuse qui a une incroyable voix, qui est très puissante, qui s'assume et qui s'affirme. Et du coup, ça me donne de l'énergie, quoi. Voilà.
On écoute ça avec plaisir et on se retrouve juste après. À tout de suite dans le Skylab.
Wanted me, what
you told me not to be.
Yeah.
When you try to come for me, I keep on flourishing.
Yeah.
And he see the universe when I'm the company. It's a
waouh, de retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de Moma, elle, autrice, compositrice et interprète, dont je serais curieuse de connaître la recette pour vivre au mieux la crise de la page blanche. Alors déjà, est-ce que tu es familière de ce phénomène ou pas du tout?
Alors, pas tellement, dans le sens où j'ai pas de pression. Si j'écris, c'est bien, c'est pour moi. Si j'écris pas, c'est pas bien grave. Parce que, aussi peut-être parce que là, j'ai assez de chansons qui me permettent de choisir mes chansons quand j'ai un concert. Donc j'ai un panel que je construis depuis maintenant 2 ans qui s'est étoffé. Hein. Et ma foi, maintenant, j'écris quand j'ai envie d'écrire. Alors, il y a eu un moment où j'ai dû accélérer très fortement, au tout début d'ailleurs. D'accord. Parce que mon premier concert, donc c'était en juin, il y a 2 ans. Et on me demandait de jouer une demi-heure.
D'accord.
Et donc, j'avais travaillé à fond pour avoir une demi-heure de répertoire original.
D'accord.
Parce que c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas travailler de la cover. Je l'avais fait avant, mais là, c'était vraiment... tant qu'à avoir un objectif, autant... autant travailler mes compos.
Ouais.
Et puis, quelques temps après, j'ai un copain qui, à l'époque, m'avait dit « Ok, si je vois passer des trucs intéressants, je vais essayer de te trouver des dates. » Et je ne pensais pas que ça allait marcher. Et il m'a trouvé une date où je devais jouer 1 heure. Et là, j'avais qu'une demi-heure à l'époque de répertoire. Et c'est long, une autre demi-heure.
Oui.
Et j'avais, en gros, j'ai eu 3 mois pour trouver une demi-heure en plus. Je l'ai fait.
Okay.
Alors, c'était sans stress, je dirais, mais ça s'est fait.
Mmh.
Et après ça, du coup, c'était tellement plus serein. L'écriture, c'était vraiment quand j'avais envie,
oui.
Quand je le sentais. Et du coup, maintenant, c'est très décomplexé.
est-ce que tu as des moments de doute quand tu crées ou est-ce que tu mets ça en dehors de la pièce?
Je me sens pas trop douter. Alors... ça va plus être dans le sens, est-ce que c'est le bon accord, est-ce que c'est le bon mot, est-ce qu'on pourrait pas trouver un autre mot. Mais il y a quelque chose que ma sœur m'a dit pratiquement au tout début, quand j'ai commencé à composer, où je lui avais envoyé 2 versions d'un truc. Je lui disais, je sais pas, mon compagnon, du coup, lui, il préfère celle-ci, j'ai une copine qui préfère celle-là, moi, je sais pas, je suis pas sûre que je fais le bon choix, et tout. Alors déjà qu'il y avait 10 personnes qui écoutaient mes musiques à l'époque, hein, vraiment, donc pas de pression. Et elle m'a dit, mais en fait, on s'en fiche, vu que c'est des compos, bah, c'est ce que toi, t'as envie de faire. Parce que personne n'a la vraie réponse, vu que c'est une compo, et personne ne te dira il y a un meilleur choix plutôt qu'un autre. Et à partir de là, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, j'ai le droit. Enfin... et donc maintenant, je ne me pose plus trop la question.
Ouais.
C'est plutôt, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas. Et après, on verra. Alors, il y a quelque chose qui est incroyable quand on réussit à faire quelque chose qui nous plaît, mais qui plaît aussi aux gens. Ça, c'est sûr. C'est encore mieux. Mmh. Et je dirais que la 3e étape, c'est quand ça touche les gens.
Mmh.
Donc, quand ça plaît, et puis après... quand ça touche. Et ça, j'ai eu le cas pour quelques chansons,
oui.
Avec des gens qui viennent me voir après le concert et qui m'ont dit, celle-ci, bah, on a vécu ça. Mmh. Ou celle-ci, elle nous a parlé parce qu'on connaît quelqu'un qui... voilà. Et donc, et ça, c'est... je dirais que ça, c'est c'est le plus incroyable,
ouais,
dans cette histoire.
Ouais, oui, je vois en bas de tes vidéos YouTube, je vois des commentaires de personnes qui disent, il y a quelque chose avec ta voix, ça me touche. Comment est-ce que tu... du coup, tu réceptionnes ces commentaires-là. Est-ce que ça te donne, j'imagine, de la force pour écrire, explorer encore plus, mm-hmm. tenter de nouvelles choses peut-être, sortir un peu d'une certaine zone de confort, mais est-ce que t'en es déjà là?
Ouais. Bah, en fait, déjà, ça valide un peu ce qu'on fait, parce que, mine de rien, qui je suis pour dire que j'ai une voix suffisante pour chanter? Voilà. Après, forcément, il y a ce qu'on ressent, mais il y a ce que les autres entendent aussi. Mmh. Donc, d'une certaine façon, il en faut aussi au début, je pense, parce que sinon, on se lance pas, en fait. Mine de rien, que les parents accrochent, que les amis disent « Ah ouais, c'est chouette !» Et puis qu'après, des étrangers le disent. Mmh. Donc ça, c'est quand même une première étape assez importante. Et ce qui permet de se sentir un peu plus légitime, parce que, mine de rien, le petit syndrome de l'imposteur qui traîne...
toujours quelque part.
Voilà, non, moi, je suis pas une diva du chant, je suis pas Jimi Hendrix à la guitare... Est-ce que j'ai le droit pourtant de proposer des choses? Voilà, donc ouais. Ça permet de dépasser un peu ça et de se dire, en tout cas, le mélange de ce que j'écris, ce que je chante, ça a l'air de toucher certaines personnes. Ouais. Alors, pas tous, hein, ça c'est sûr, mais certaines allons-y. Personnes. Donc, continuons là-dessus. Mmh.
Comment est-ce que tu vis ton statut récent, certes, mais il est là, ton statut d'artiste? Est-ce que tu te considères comme tel et... Comment est-ce que... Qu'est-ce que ça te dit? Voilà. Tu aurais peut-être dû commencer par ça, d'ailleurs.
Je crois que c'est une grosse question. Hein. Mmh. Je dirais qu'à certains moments, oui. À d'autres, pas du tout. Ouais. Parce que ma semaine est découpée en plein d'activités différentes.
Oui, oui.
Donc, j'ai un travail aussi à côté qui n'a rien à voir avec la musique.
Oui, oui.
Et donc, du coup, dans ces moments-là, non. Je ne suis plus artiste, je suis autre chose. Et l'artiste, elle revient plus tard. Quoi.
Oui, oui.
Mais ce qui est très bien, ça me va, ça me va très bien.
Parce que tu aimes multiplier les casquettes, on en discutait tout à l'heure. Tu écris également tes clips, tu construis tout autour de cet univers visuel que tu nous proposes. Ce qui est intéressant aussi à préciser, c'est que tu n'avais pas forcément une formation académique artistique, mm-hmm. mais très récemment, enfin, il y a quelques années, tu t'es inscrite. De toi-même au conservatoire. Enfin, tu as passé le concours et tu as intégré le conservatoire. Qu'est-ce que cette formation t'a apporté? En quoi elle te nourrit au quotidien dans ta pratique?
Parce qu'elle, justement, ils me font aller dans des endroits où j'ai peut-être pas forcément envie d'aller et mine de rien, c'est extrêmement formateur. Mmh. Donc là, par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais mon audition de classe de chant et c'était comédie musicale. Et donc là, on avait un micro-casque et on devait danser, quoi.
Non.
Je suis pas danseuse.
Et pourtant, si on voit ton voilà. clip, tu danses très bien, vraiment.
Oh, donc, je danse voilà. 3 secondes et demie.
Et modeste en plus.
Mais donc voilà, là, la prochaine audition, ce sera sur rap et R&B. C'est pas du tout ce que je fais, c'est pas du tout ce que j'aime, mais pourtant, on apprend beaucoup, quoi. Donc c'est important aussi, parce que ça fait grandir. En tant que musicienne, ça fait grandir. Mmh. Donc c'est ça que j'aime bien avec le conservatoire, c'est que ça nous fait aller dans des endroits où on n'irait pas tout seul.
Mmh. Mmh. Quand tu crées, est-ce que c'est... une forme de dévotion pour toi, parce que la création, ça va de pair avec une certaine forme de solitude, d'isolement. Comment est-ce que tu vis ce temps de création?
Je crois que ça m'anime plutôt qu'autre chose. Et je le partage. Souvent, je vais pas... Alors, parfois, je crée tout seul dans ma chambre, dans mon coin, mais ça peut être dans le salon, il y a du monde et j'ai trouvé 3 accords cool et puis je le montre à quelqu'un. Et puis finalement, je le reprends 3 semaines après parce que je l'ai enregistré dans mon téléphone. Et puis là, je me dis, allez, ça y est, je le travaille un petit peu, puis je laisse tomber encore une fois, puis je le reprends après en me disant, ça y est, il est mûr. Donc, je vais essayer de mettre un texte dessus. Mmh. Voilà, c'est vraiment... c'est petit à petit... En tout cas maintenant. Au début, c'était peut-être un peu différent, mais maintenant, c'est je fais écouter, tiens, regarde, etc. Donc, c'est très décomplexé pour l'instant.
Ouais. Mmh. Et le fait de te mettre en scène, je parlais de tes clips tout à l'heure. Moi, je te trouve très naturelle dans tes clips, notamment dans celui très beau. J'encourage les auditrices, les auditeurs à le regarder sur YouTube, In Blood Inc. Comment est-ce que tu vis ce temps de la scène ? En général, que ce soit le clip ou que ce soit la scène avec un public.
Alors pour le clip, ça c'était une grande question que j'avais avant de filmer. Je souhaitais pas être beaucoup dans le clip Et finalement, le jour J, j'ai tellement aimé que ça ne m'a pas du tout dérangé de me voir après à l'écran. Parce que j'ai passé une super journée, parce que les gens qui nous entouraient ce jour-là étaient extrêmement bienveillants, qui m'ont mis à l'aise, qui n'avaient pas de pression, qu'il y avait, on ne s'attendait pas à ce que je fasse des miracles. Et finalement,
le miracle est né.
Voilà, ouais, tout ça m'a mis dans une optique de « allez, j'essaye, je me fais plaisir, peut-être que ça n'arrivera jamais dans ma vie ». Un truc comme ça, alors, enfin, essayons quoi.
C'est voilà. Génial, c'est génial. Et le temps de la scène devant un public, comment est-ce que tu l'envisages, comment est-ce que tu le vis?
Ça, au début, c'était un peu plus compliqué. Au début, je venais pour jouer ma musique et j'arrivais pas trop à partager autre chose que ma musique. Et ça, c'est avec de l'entraînement et de l'aide aussi de certaines personnes en résidence qui m'ont appris à dire « Mais peut-être que ce que tu as à dire, ça intéresse les gens aussi. Donc peut-être tu peux essayer de parler, qu'est-ce que tu peux dire ?» et essayer de creuser un petit peu là-dessus. Pareil, essayer de sourire, parce qu'au début, j'étais tellement concentrée que je ne souriais pas. Et maintenant, ça y est, je commence à... Enfin, ça fait un petit moment déjà, mais je prends du plaisir à être là et je suis contente d'être là et ça se voit et j'ose le montrer maintenant. Mais ça, c'est un travail de longue haleine, quoi.
J'imagine.
Alors, il y a des gens, ça doit être inné.
On ne les connaît pas ici.
Mais moi, ouh.
Qu'est-ce que tu trouves dans ta pratique artistique que tu ne trouves nulle part ailleurs ?
Cette fierté qu'on a après la création. On a réussi à créer quelque chose. Alors, je pense que ce soit de la peinture, du bricolage, enfin, quelle que soit la discipline, de se dire qu'on a travaillé pendant certaines heures et qu'à la fin, on a quelque chose dont on est fier. Et ça, c'est génial, en fait. Mais ça arrive dans la musique, mais ça arrive dans tout.
En parlant de musique, on va faire une nouvelle pause musicale en écoutant tout d'abord un titre que tu nous as proposé de découvrir. Alors, il s'agit de faire The Well Dink Song de Oscar Isaac et Marcus Mumford, extrait de la BO du super film Inside Llewyn Davis. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix ?
Parce qu'il m'accompagne dans tous les voyages en voiture que je fais. Quand on rentre en Bretagne, donc plusieurs fois dans l'année, il y a toujours un moment où cette musique passe et on le chante en harmonie. Voilà, c'est comme ça, c'est un rituel dans la voiture.
Génial. Pour les auditeurs du podcast, il y aura un titre de ma sélection. Il s'agit de Psychos, de l'actrice et chanteuse américaine Jenny Lewis, extrait de son album Apparaître. On écoute tout ça et on se retrouve juste après. À tout de suite dans le Skylab.
If I had wings like Noah's dove, I'd fly the river to the one I love. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. Well, I had a man, strong and tall, he moved body like a cannonball. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. I remember one evening in the pouring rain, and in my heart was an aching pain. Thank you.
De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis aujourd'hui en compagnie de Moma, elle, autrice, compositrice et interprète, qui enchantera bientôt, je l'espère, elle va nous en parler, les scènes lilloises et bien plus encore. Je suis une amoureuse transie. Je suis de celles qui aiment à la folie, profondément radicale. Je t'aime dans toutes tes aspérités, dans ta lumière comme dans ta laideur. Je prendrai tout de toi, alors prends tout de moi, apprends à m'apprendre. Et de nouveau, créons un amour qui aura le goût de toutes nos premières fois. Aujourd'hui, j'ai demandé à Moma L de nous lire un poème. De quel poème s'agit-il, Maëlle ?
Certitude de Paul Éluard.
On t'écoute avec plaisir.
C'est parti. Si je te parle, c'est pour mieux t'entendre. Si je t'entends, je suis sûre de te comprendre. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Si tu souris, je vois le monde entier. Si je t'étreins, c'est pour me continuer. Si nous vivons, tout sera à plaisir. Si je te quitte, nous nous souviendrons. En te quittant, nous nous retrouverons.
Merci infiniment, Maëlle, pour cette belle lecture. Ultime question, à quoi rêves-tu ?
Je rêve à plein de choses. J'ai plein de projets en cours. Et je dirais que je rêve de continuer encore un petit peu ce que je fais là, parce que ça me plaît énormément. Et qu'importe où ça me mènera d'ailleurs.
C'est tout le bien qu'on te souhaite. Je voudrais bien que tu nous annonces tes prochaines dates sur scène. Il y en a une dans le coin, je crois.
Oui, c'est ça. Ça va être assez intense là, à partir du mois de mai. Donc, j'ai une date à l'église de Rouvroy, pardon, le 21 avril, avec le 9-9 bis. Et Lorraine Vattier, une bassiste extraordinaire. Et après, on part plutôt du côté de Lille, avec le 18 mai, une première partie de Naël Lille au Grand Mix. Et super. Le 27 à Haubourdin, organisé par Dynamo, la première partie de Cats on Trees.
Génial.
Voilà. Et pour ceux qui veulent, parce que...
On veut.
Pour ceux qui veulent sur la Côte d'Opale, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, le 13 mai, ce sera à l'église de Brême, parce que moi, j'ai un petit fait pour jouer dans les églises. Voilà.
Oui, y a une, parce qu'il y a une belle acoustique.
Oh, c'est super. C'est ça. C'est agréable.
Cette ambiance, tu as raison, presque spirituelle, complètement spirituelle. Bah, on a hâte de te retrouver dans chacun de ces lieux. Et nous refermons ce numéro du Skylab que vous pourrez écouter, réécouter sur Spotify dès demain. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram de l'émission et à me donner plein d'étoiles, parce que ça m'encourage à continuer. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout l'univers de Moma L sur sa page Instagram, sur YouTube avec ses très beaux clips, et puis sur les plateformes d'écoute en streaming. On va se quitter en musique en écoutant un titre de ma sélection. Il s'agit de Borrow Trouble, extrait du nouvel album Multitude de la géniale Faced, qui signe ici son grand retour depuis 2017. Merci à Radio Campus Lille, merci à vous, chères auditrices.
Merci.
Chers auditeurs, merci à toi Maëlle infiniment pour le chemin jusqu'à moi aujourd'hui, pour ta présence. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert.
Day. Before your wits are gathered, even before you are awake, your thoughts will find a clock to wind and put dissent into your ear. Even before your eyes are open, the plot has thickened round your fear. We borrow trouble, since we all know how. It's an expression from the old days, but even more true now. We borrow trouble, we even borrow time. Like you don't like a bag of dead weight. So good at picturing the life that I was gonna be left out of, rather than the one I'd made. Well, these holy words, they gather heavy on my mind. Knitting thoughts like they're my destiny. It's a poor skill to get so good at making wrong what is all right. We all go around in trouble. Seems we all know how. It's an expression from the old days. We'll be right back.
retrouver toute la musique que j'aime, un projet artistique de territoire sur Radio Campus. Une série d'émissions réalisées en direct et en public à Villeneuve-d'Ascq. Toute la musique que j'aime est une aventure qui donne la voix aux habitantes et aux habitants d'un quartier à travers 5 émissions diffusées aux 4 coins de la ville. Rejoignez-nous pour la dernière émission le 21 juin à partir de 17h à la maison de quartier Pasteur. Au programme balade sonore, repas convivial, performances musicales et rencontres inédites. Des émissions proposées par l'Amicale, coopérative de projets vivants, en partenariat avec la Ferme d'en haut et dans le cadre d'un contrat ville avec la ville de Villeneuve-d'Ascq.